Donc à partir du moment justement où vous partez de la télévision, donc il y a ce bouquin, il y a les documentaires, vous rentrez en fait dans une autre forme de journalisme finalement, avec notamment ce thème récurrent de la critique des médias.
Alors, non, il y a eu deux choses. Il y a un, moi je voulais faire du documentaire en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je voulais plutôt réaliser, mais je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Quand j'ai fait l'UT Journaliste de Bordeaux, donc j'ai fait journaliste d'abord, en plus j'étais caméraman, comme je l'ai dit. Je suis arrivé dans une période où il y avait encore des possibilités, la fin des années 90, donc j'ai été à l'école des hautes études en sciences sociales, à Paris, j'ai repris un peu d'études, j'ai rencontré Bourdieu, donc j'ai rencontré aussi tout un groupe de critiques médias, en plus comme on avait écrit ce livre qui avait quand même dans le milieu. De universitaire, voire un peu même un peu plus large, avait fait parler de lui. Et voilà. Et moi, j'ai pu devenir un peu réalisateur de documentaire. J'ai eu l'occasion, pendant que j'étais au bureau de France 2, de m'échapper pendant quelques mois et j'avais travaillé avec un réalisateur de la télévision de l'époque de l'RTF, Daniel Carlin, qui était un grand réalisateur qui a été membre de la Haute Autorité en 81 quand elle a été créée, l'ancêtre du CSA. Et on avait fait 10-52 minutes, moi j'étais à la caméra, chef op image, ça s'appelait les chroniques de l'hôpital d'Armentières. Et c'était intéressant, moi c'était le documentaire, donc ça m'avait donné encore plus l'eau à la bouche, entre travailler des choses un peu longuement et faire des sujets en 1 minute 15, j'avais vite choisi. Voilà, et donc j'ai réussi à rentrer dans ce créneau-là et j'ai fait pas mal de documentaires traitant de l'économie du social. C'est ce qui m'intéressait pour Arte, pour la 5, pour France 5. Donc là, j'ai fait ça pas mal. Et à côté de ça, j'ai chaussé la casquette, un peu l'autre casquette de la critique des médias, puisque j'avais été avec Bourdieu, et Bourdieu était en pleine critique des médias, et le monde diplomatique, Serge Halimi, tout ça. Donc j'ai fait partie de cette mouvance qui s'est créée à la fin des années 90 de la critique des médias. Il y a eu Acrimed, Action Critique Média, qui s'est créée. Il y a eu sur la télévision, il y a eu Pierre Karl aussi qui a fait ses films. Donc voilà, j'ai fait partie de cette mouvance-là. J'ai travaillé dans un journal qui s'appelait Pour lire Palu, PLPL, qui avait été créé avec Pierre Bourdieu. Et après, j'ai été directeur publication du celui qui a suivi, qui s'appelait Le Plan B, où travaillaient ben, Serge Halimi, toute la bande, Pierre Imbert, tout ça. Et je faisais les deux en parallèle, voilà. Jusqu'à ce que je fasse plus les deux en parallèle, c'est-à-dire que je fasse un documentaire de critique des médias, c'est-à-dire les nouveaux chiens de garde. Mais jusqu'à présent, j'avais fait un peu les deux, ce qui m'empêchait pas dans des documentaires pour France 5 de glisser de temps en temps un peu de critique des médias, parce que faut bien voir que, comme disait Bourdieu, les faits divers font diversion. Cette appétence des médias pour des sujets comme les faits divers, etc., ce sont des écrans de fumée à d'autres problématiques, d'autres violences qui sont beaucoup plus importantes, qui sont la violence économique. La dérégulation économique ultralibérale entraîne énormément de souffrances, de violences, d'insécurité, et les médias se gardent bien de le raconter à sa juste mesure. Voilà, donc après j'ai fait le nouveau chien de garde à la fin des années 2000, autour de 2010.
Justement, oui, les nouveaux chiens de garde, c'est un documentaire qui a eu un gros succès, une critique acerbe des médias et aussi des gens qu'on voit tout le temps à la télévision, dans les médias, et qui, on va dire, assènent une forme de discours néolibéral à longueur de journée. Alors, critique des pratiques médiatiques, mais aussi critique de la structure des médias, la concentration, le rapport avec les pouvoirs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les différents axes de critique de ce documentaire?
Faut voir que la dérégulation ultralibérale qu'a connue la société, par exemple en matière économique, hein, la dérégulation des services publics dans les années 90 et les années 2000, la SNCF, la Poste, EDF, l'éducation nationale, maintenant la santé, toute cette dérégulation ultralibérale en fait a commencé par la dérégulation des médias. C'est peut-être pas un hasard. On commence par ce qui permet donner de l'information pour après mieux déréguler tranquillement avec des médias qui sont à la solde au fond d'une idéologie. Et il y a eu vraiment une transformation du champ des médias. Il faut le voir comme une transformation économique. Des grands groupes industriels et financiers, il y en avait peu dans les structures de médias avant les années 80. Bien sûr, il y a eu des propriétaires, il y a eu Ersan qui a possédé quelques journaux régionaux. Mais il faut voir qu'il y avait une ordonnance qui avait été faite en 1944, qui était la première des ordonnances de 1944, qui était non-concentration des titres. Un propriétaire, un titre. Cette ordonnance est restée relativement longtemps en place et gênée les propriétaires pour accumuler plusieurs médias. Alors, il le contournait comme Robert Ersan parce qu'il avait des amitiés et des affinités politiques dans le pouvoir gaulliste et gardien en place. Mais bon, c'était pas facile à faire. Et c'est au fond la dérégulation du service public de l'audiovisuel qui a amené ces grands groupes industriels et financiers à rentrer dans les médias. Et c'est les socialistes qui ont fait ça. C'est-à-dire en 81, les socialistes vont ouvrir le service public, le déréguler. Alors ça part peut-être d'un bon principe. Hein. Il fallait voir comment était la télévision du service public avant 81. Elle a été tenue, et on le montre dans les nouveaux chiens de garde, il y a une séquence avec Zitrone et Perfit, où Perfit vient annoncer le changement qu'il a décidé du JT, du journal télévisé, devant le présentateur Léon Zitrone. Il fallait voir aussi qu'à côté de ça, la production était tout à fait différente. La production était plutôt de très bonne qualité en France. Il y avait des grands réalisateurs, souvent qui étaient issus de la FEMIS, de l'IDEC, des écoles de cinéma, qui étaient souvent liés au Parti communiste et à la CGT, et qui avaient des grandes idées, des idées d'éducation populaire. Il y a eu des grands réalisateurs, Bluval, Santelli, etc. Il y avait des grandes œuvres de la littérature qui étaient mises en téléfilm, ça passait à 20h30. On le voit dans le nouveau Chien de garde. L'émission des Gropes sur Lecture pour tous, quand il présente le livre de Nizan, ça passe à 20h30 hein, à la télévision. Il fallait voir la qualité syntaxique, la façon de parler, etc. Enfin, voilà. C'est le jour et la nuit avec maintenant. Ils vont déréguler avec peut-être des idées qui ne sont pas idiotes, mais c'est la création, par exemple, des radios libres. Mais ça, c'est vraiment les socialistes. En 1944, les résistants avaient pensé créer un autre secteur des médias. Mais il avait pensé aussi économiquement au regard de ce qu'avait été la presse entre deux guerres, qui était une presse corrompue puis collabo. Enfin, vraiment, la presse française n'a jamais été très glorieuse. Hein, et ils avaient imaginé, par exemple, des structures économiques. Création de coopératives, création d'associations, d'entreprises à but non lucratif, voire de services publics, tout ça aidé par l'impôt. Et il y avait une volonté de créer une indépendance, une autonomie. Les socialistes ne font pas ça. Ils dérégulent, ils créent l'esprit des radios libres, soit. Mais très vite, ils n'adossent pas avec un cadre économique socialisé. Et résultat des courses, c'est l'économie commerciale qui emporte un morceau et qui prend tout. En télévision, ça va être la même chose. Il va avoir Mitterrand qui va créer volontairement d'abord Canal+, qui est la première chaîne cryptée privée. Et après, en 85, la 6 et la 5... qui vont être donnés à des groupes industriels et financiers. Il y a Hachette dans la 5, il y a RTL dans la 6. 87, il y a la privatisation de TF1 avec l'arrivée de Bouygues. Voilà, et c'est l'accélération dans les années 80 de la mise en place de grands groupes industriels et financiers. Rien que, par exemple, il va avoir la privatisation à Sofirad. Europe 1 RTL était géré par un groupement qui était lié à l'État. La Sofirad, et qui gérait au fond Europe 1 et RTL. Eh bien, la Sofirad est privatisée et Europe 1 est donnée à Lagardère. Donc la création, par exemple, de l'Empire Lagardère vient de cette dérégulation-là. Tout ce processus d'accélération a lieu vraiment au milieu des années 80. C'est-à-dire qu'on part peut-être d'un pas mauvais principe de liberté, mais on l'adosse pas quand même avec une indépendance économique, parce que la liberté, elle veut rien dire. Hein. La liberté, c'est la liberté, dans le système capitaliste, d'avoir du pognon et de tout rafler. Hein, c'est ça, et vous le savez bien, vous, les radios libres, la complexité, on aura l'occasion peut-être alors de parler justement de la presse alternative. Donc, effectivement, il y a eu vraiment cette transformation-là, et c'est ça qu'on montre aussi dans les nouveaux chiens de garde, c'est-à-dire l'accumulation d'un grand groupe, d'une grande partie des médias par des groupes industriels et financiers, Bouygues, Lagardère, Bolloré, Arnault, Pinault, etc., etc., qui possèdent un grand nombre de médias. Donc ça va imprimer une façon de faire, de travailler, qui va renvoyer, d'une part, la presse, les médias, l'information en un produit mercantile. Hein. Il faut le vendre, il faut faire de l'audimat, il faut mettre la publicité. La publicité n'existait pas dans l'audiovisuel avant 1974 aussi. Hein. Tout ça va faire de la concurrence, va transformer l'information en une marchandise. Alors ça paraît maintenant un peu normal que l'information soit une marchandise. En 1944, la volonté des résistants de créer un espace économique équilibré, autonome, vient tout simplement de la réflexion que l'information est un produit à part, n'est pas un produit de consommation, n'est pas un produit mercantile. Il est au même titre que la santé, l'éducation, à l'époque l'énergie et les transports, un bien de service public. C'est fondamental cette idée-là. Et c'est cette idée-là qui est battue en brèche par toutes les lois. Les lois qu'ont mis en place les socialistes, puis la droite, et qui vont créer un cadre où les journalistes n'ont plus les moyens d'être indépendants. Ils vont se faire racheter au gré des propriétaires, avec des impositions d'informations de plus en plus rapides, courtes, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui vont favoriser des faits divers, des produits qui se vendent, qui font peur, entre guillemets, hein, qui se vendent. On a l'impression que les gens demandent ça, c'est ce que nous disent nos chefs, mais les gens, ils demandent ça, mais bien sûr, à force de leur donner ça, les gars consomment ça, hein. C'est un peu comme le McDo. Si vous filez que des McDo à vos enfants, ils vont adorer le McDo. Si vous leur commencez à leur faire goûter des légumes, autre chose, vous leur élargissez le goût. Là, le goût, il est réduit. Alors on dit, oui, mais les gens demandent ça. Les gens, ma mère et mon père, qui étaient ouvriers, regardaient Lecteur pour tous, non pas parce qu'il n'y avait que ça à la télé, mais le regardaient, l'écoutaient en 1980. Donc, tout ça, ce sont des changements importants et qui induisent des formes d'information très différentes. Deuxième point quand même, après c'est idéologique, c'est que ces grands groupes industriels et financiers, ben, ils ont quoi comme intérêt? De défendre une idéologie ultralibérale et capitaliste. Hein. À chaque fois qu'il y a des grèves contre les réformes des retraites, etc. Ils sont pour la réforme des retraites, ils sont pour que les gens travaillent plus, soient un peu moins bien payés et moins de protection. Mais tout ça parce qu'ils ont des groupes où ils ont des dizaines de milliers de salariés dans le bâtiment, Bouygues, dans la téléphonie. Xavier Niel, et maintenant Numéricable avec Drahi qui possède Libé, etc. Les Rafales, tout ça, ce sont des groupes industriels où ils ont des dizaines de milliers de salariés. Donc ces dizaines de milliers de salariés, vaut mieux qu'ils travaillent plus longtemps, qu'ils gagnent un peu moins et qu'ils aient moins de protection. Ce sont des patrons d'entreprise. Donc ils ont tout intérêt de favoriser une idéologie de propagande ultralibérale. Et c'est ce qui fait qu'à la télévision, on a cette idéologie qui nous dit, ben, grosso modo, vous les salariés, vous gagnez trop, vous êtes trop protégés, il n'y a pas cette souplesse du marché de l'emploi. Hein. Pas cette souplesse du marché du travail. C'est quoi la souplesse du marché du travail? Ben, c'est les boulots de plus en plus, des services mal payés, à temps partiel, 700, 800 euros par mois, pas protégés, avec une flexibilité énorme, travaillant 7 jours sur 7, dimanche compris. Mais c'est ça, c'est l'intérêt des patrons, c'est pas l'intérêt des salariés.